Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef ce matin, c'est Jean-Louis Dalloro. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes dans le reste de la journée, rédacteur en chef adjoint du site bfmbusiness.com et vous êtes très occupé depuis 7h30 ce matin à analyser le déficit public.
Ben oui, parce que les chiffres sont tombés ce matin et ils sont très mauvais. On s'y attendait un petit peu. Donc 5,5% du PIB en déficit public. Pour rappel, on était à 4,8% l'année dernière. On est tout simplement l'un des plus mauvais élèves de l'Union européenne. Mais plutôt que de parler d'un ratio sur PIB qui n'a pas forcément énormément de sens à part pour se comparer de pays à pays, il faut savoir ce que ça veut dire en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Là, on parle de 150 milliards d'euros pour 2023, toujours selon l'INSEE. Donc dans les ordres de grandeur, moi j'ai regardé, ça représente par exemple deux fois plus que ce que rapporte l'impôt sur les sociétés. Oui. C'est une fois et demie les recettes de l'impôt sur le revenu ou encore les trois quarts de ce que rapporte la TVA qui est plus grosse taxe, le plus gros impôt en France. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter pour son épargne? Ben oui, clairement sur le côté fiscalité. Tant que les taux étaient bas, voire négatifs, un tel déficit en réalité ça posait pas tellement de problèmes. Mais la hausse des taux de change, ça a changé la donne. Et il va falloir soit couper dans les dépenses, soit alourdir les impôts, notamment sur l'épargne. On ira probablement vers un mix des deux au cours des prochains mois. Mais il faut savoir qu'historiquement, on augmente beaucoup plus facilement les impôts en France qu'on ne baisse les dépenses.
Voilà, mode d'emploi du déficit public français. On va parler, est-ce que c'est une bonne nouvelle, du retour des introductions en bourse?
Bah oui, ça se réveille un petit peu, hein. Et notamment la semaine dernière, il y a eu de belles introductions en bourse, Astera Labs, Reddit, Galderma, qui ont plutôt bien performé sur leur premier jour. Les introductions en bourse, hein, refont parler d'elles, que ce soit aux États-Unis comme en Europe. Les marchés financiers l'espéraient depuis plusieurs mois, hein, parce que l'année 2023 avait été très très pauvre sur ce plan-là. Oui. Pour l'instant, sur le vieux continent, ça se passe plutôt bien. Entre le 1er janvier et la mi-mars, les IPO, comme on dit, ont permis de lever 3,2 milliards d'euros Ce sont les données du London Stock Exchange Group. C'est le meilleur démarrage, tout simplement, depuis 2021 en Europe, qui a été une année record. Alors, si on ne regarde pas l'ensemble de l'Europe, mais on se concentre sur la France, là, c'est un petit peu moins dynamique. On a eu en février Pluxy, hein, vous savez, la filiale du titre restaurant de Sodexo qui a fait son entrée en bourse. Mais Renault a jeté l'éponge sur Ampère, sa filiale électrique. Les plus gros morceaux à venir sont aussi des scissions, hein. C'est Vivendi qui devrait scinder en quatre groupes et Sanofi qui devrait coter à part sa filiale Santé Grand Public. Alors, est-ce que ça vaut le coup de miser sur les intros en bourse? Pas vraiment, généralement. Hein. S'il y a un ETF qui traque les performances des sociétés introduites depuis moins de 3 ans aux États-Unis, c'est un exemple parmi d'autres, hein, le Renaissance IPO ETF. Eh bien, si on regarde sur 3 ans, l'ETF il a reculé de 34%, alors que le S&P 500, lui, il progressait de 40%.
Bon. Voilà.
Donc pas terrible.
Dynamique à suivre peut-être. Un mot du Bitcoin qui est ressorti de sa zone de correction, là, qui titille les 70 000 dollars à l'approche du halving, dont on reparlera avec Amaury de Tonquédec, et Cathy Wood, hein, notre oracle un peu du Bitcoin, qui place la barre très très haut sur le Bitcoin. Racontez-nous.
Ouais, très très haut. Hein. C'est la papesse de la tech américaine, hein. Cathy Wood. Elle voit le Bitcoin tout simplement à 3,8 millions de dollars. Alors, pour rappel, moi j'ai regardé ce matin, tout à l'heure, on était autour de 70 700 dollars. Alors, pour quelle raison fait-elle de telles prévisions? Elle estime que, vous savez, les fameux ETF Bitcoin Spot, qui ont été autorisés en janvier dernier et ont connu quand même un immense succès, vont continuer de se développer, même s'il y a eu un petit coup de mou là, ces dernières semaines. Mais ça va faire monter les cours à terme dans les prochains mois. Mais ça, Cathy Wood, elle explique que c'est si les grands gestionnaires d'actifs investissent 5% de leur portefeuille en Bitcoin, le Bitcoin pourrait aller vers les 3,8 millions de dollars. Ça paraît quand même très optimiste que 5% des fonds des gestionnaires d'actifs soient en Bitcoin. Et puis, il y a le fameux halving qui arrive. Hein, c'est la récompense en Bitcoin pour les mineurs qui valident les transactions sur la blockchain. Et ça va être divisé par deux, ces récompenses. Donc, a priori, autour du 19 avril. Et il y a ainsi moins de nouveaux Bitcoins mis en circulation. Et généralement, historiquement, ça se traduit par une hausse des cours.
Voilà ce qu'on pouvait retenir ce matin dans l'actualité patrimoniale. Merci Jean-Louis.